Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Scope, votre émission cinéma sans générique parce qu'on est trop fast. Je suis Chris et je suis accompagné de Sarah.
Hello Chris, hello tout le monde.
Et aujourd'hui à Scope, émission, on va vous parler d'actualité ciné, tout simplement, entre les nouvelles sorties, entre tout ce qui s'est passé au César, entre tout simplement les petits films aussi qu'on a pu voir à Anima et qui étaient déjà sortis avant, ce qui fait que pour notre ne la manquez pas, prochaine émission spéciale Anima, ben du coup vu que ce sont déjà des films comme Le Roi et l'Oiseau par exemple qui sont sortis depuis quelques temps maintenant, on pourra vous en parler un petit peu quand même aussi, parce que ça fait toujours plaisir et que c'est un super film en plus qu'on a pu découvrir ou redécouvrir en salle.
C'est ça, on revient fraîchement d'Anima là, on est... plus ou moins en forme, plus ou moins au complet, mais ça va aller.
C'est ça, le bateau tient à flot et c'est le plus important. Et de toute façon, la passion, de toute façon, maintient tout.
Alors, donc en plus de cette grosse émission Anima qui se prépare, qui on vous en dira plus bientôt, et promis, on ne va pas tout le temps vous rabâcher les oreilles avec ce festival, même si on a passé un excellent moment. Je pense que vous avez pu en avoir un petit aperçu la semaine passée pendant l'émission qui s'est déroulée en direct sur place. Mais voilà, aujourd'hui on va commencer par un petit point actu, parce qu'il se passe plein de choses dans le cinéma durant ce premier trimestre 2026, comme souvent au premier trimestre, voilà... jusqu'aux Oscars qui auront lieu ici à la mi-mars, c'est toujours bien chargé.
Effectivement, et bon, avant les Oscars, il y a bien sûr alors les Magritte renommés, les René, parce que voilà. Les gens qui avaient les droits ne voulaient plus être associés à ça.
Donc mort c'est à Magritte, vive René.
C'est ça. Donc juste les René maintenant. On a du coup eu aussi récemment les Césars, et je trouve ça super intéressant, car on avait eu un invité de marque au César, ce qui était deux invités de marque finalement. On a eu Jim Carrey, qui venait justement prendre un prix... très spécial en l'honneur de sa carrière en fait, et qui a beaucoup fait parler de lui, parce que c'est juste sympa d'avoir juste Jim Carrey qui arrive à une cérémonie française et qui a expliqué que du coup en fait son arrière-arrière-arrière-grand-père était français, et d'où l'origine du nom. Et du coup on a eu l'autre invité que j'estime être de marque, qui est bien sûr Emmanuel Curtil, sa voix française qui ne l'avait jamais rencontré avant. Et c'était assez impressionnant, et c'était, du coup, il a fait tout un discours sur scène assez émouvant, assez beau, où il demandait notamment, s'il te plaît, rejoue dans plus de films, s'il te plaît, entre autres, mais c'est un petit peu son petit running gag, bien sûr.
Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Jim Carrey, maintenant, ça fait quelques années que sa carrière est en pause, en retraite, je sais pas vraiment.
C'est ça, en énorme ralentissement. Je crois que l'un de ses derniers gros films de sa carrière, c'était, je crois, Les Enfants de les Orphelins de Baudelaire, je sais plus exactement du nom.
Ah, oh là là.
Ça remonte de 2011, si je ne m'abuse.
Comme ça, oui.
Si je ne m'abuse, et ensuite plus grand chose, il a eu c'est un peu sa période à vide où il visiblement il avait très envie de s'exprimer via la peinture, et d'un coup le film Sonic arrive, et du coup il joue du coup le méchant docteur Robotnik à qui il ne ressemble même pas dans les jeux, donc c'était vraiment très absurde et ça n'est vraiment de nulle part. Et maintenant, il ne sort de sa retraite qu'uniquement pour jouer le méchant dans le film Sonic.
Voilà.
D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'après le second film, il dit « Non, mais je pense que j'aime arrêter. Il faut vraiment que le prochain film soit porté par les anges et écrit en lettres d'or. » Et il est revenu pour le troisième pour jouer deux méchants, du coup, en même temps. C'était très marrant et très années 90, en fait. Il y a vraiment cette vibe-là, mais effectivement, il ne tourne plus beaucoup.
Voilà, le méchant dans Sonic et des déclarations anti-vax, c'est tout ce qu'on peut attendre.
Ah, j'avais pas vu ça. Let's go. J'avais surtout vu qu'il était énervé contre Trump, mais...
Qui ne l'est pas.
Mais c'est ça, oui, forcément. Mais du coup, oui, ça me paraissait pas forcément logique, mais effectivement, oui, si l'anti-vax... Mais Emmanuel Curtil n'est pas anti-vax, c'est aussi la voix de Chandler, si je ne m'abuse, dans Friends. Et de tant d'autres voix, mais c'est ça aussi, de Kronk aussi, je l'adore Kronk dans...
Et toi Chris, les grosses cérémonies de remise de prix, les Césars, les René, les Oscars, c'est quelque chose que tu suis, que tu apprécies, ou sans plus?
Eh bien, comme ça, je me dis, c'est toujours intéressant de voir notamment... le fait de mettre en valeur, par exemple, quand Parasite avait gagné un film étranger qui gagne le prix du meilleur film, c'est extrêmement impressionnant et c'est assez beau, la symbolique, en plus un film un peu politique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais effectivement, c'est toujours assez cool et forcément, c'est des choses qui sont très regardées et qui influencent l'industrie, donc c'est important de s'intéresser à ça. Mais j'avoue que bon, ben, si mon film n'y gagne pas, c'est pas très grave. Et moi, j'ai surtout vu le fait de voir Emmanuel Curtil profiter de son temps, de son temps sur scène pour interpeller la ministre de la Culture française sur les dangers de l'IA, qui met beaucoup en danger, par exemple, des professions comme les professions du doublage, par exemple. Donc, je regarde, mais avec assez de distance. Et toi ?
Moi j'aime bien, ça fait quand même quelques années que je suis ça, je vais pas dire à fond non plus, mais oui j'aime bien à partir des nominations suivre, même en amont de ça en fait, j'aime bien suivre la saison au cinéma.
Un peu les spéculations de quel film va.
Oui. Voilà, au niveau des nominations et finalement qui l'emporte, est-ce qu'on est content ou pas, mais clairement je vais pas aller insulter qui que ce soit sur les internets parce que mon chouchou a perdu, ce qui est rare de toute façon.
Souvent, les gens s'énervent surtout pas tellement pour celui qui perd que pour celui qui gagne.
Ouais,
là, avec Sinners qui bat le retour du roi en termes de record de nominations.
Ouais. Avec 16 nominations aux Oscars, du
ce
coup,
qui est quand même
énorme.
Impressionnant de ce film qui a eu un méga succès. C'est toujours beau de voir, par principe, même si moi personnellement moins accroché, par principe de voir un film original comme ça, avoir un tel succès. Je me dis, bon, c'est toujours cool de le voir autant nominé. Mais c'est vrai que oui, les cérémonies comme ça, c'est toujours les controverses un petit peu de qui c'est qui va dire quoi comme discours aussi. Mm-hmm. C'est toujours un petit peu l'aspect politique, bien sûr, qui est toujours présent.
Et puis, ça reste des moments en mode assez marquants aussi. Et j'avoue, moi, j'aime bien voir les tenues de qui de pièce. j'avoue, les tapis rouges, c'est mon petit kiff aussi.
Je comprends. C'est vrai que c'est toujours très sympathique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, les Oscars vont faire parler d'eux comme jamais, je pense. Déjà l'année passée, il y avait beaucoup de polémiques entre des films. Donc là, j'avoue que j'ai l'impression que la Terre va trembler au moindre truc. Il y avait aussi les nominations de jeux vidéo en décembre aussi, où là, c'était aussi parti en vrille et le nombre de débats qu'il y a eu. Donc là, j'avoue que c'est un peu la bombe à retardement de ce début d'année, les Oscars et les René.
Des petites, t'as eu des petits plaisirs au niveau de ceux qui ont remporté des statuettes ici au César, des films pour lesquels t'étais content ou au contraire pas tellement. Moi, j'en ai.
Ah oui, oui, lesquels ?
Alors, le meilleur film d'animation pour Arco, ça a fait extrêmement plaisir. Moi, je l'avais complètement raté en salle à sa sortie. Heureusement, j'ai pu le rattraper à Anima. Et oui, encore ce festival, on n'arrêtera jamais. Mais donc, très chouette, qui remporte aussi, si je ne dis pas de bêtises, la meilleure musique originale. Et puis, un de mes petits chouchous de cette année, c'est Le meilleur espoir masculin, emporté par Théodore Pellerin dans Nino, qui nous fait une interprétation incroyable. Je ne sais pas si tu avais vu Nino.
Ah, c'est fou parce que c'est pas que je l'ai pas vu, mais c'est que ça me dit rien comme nom.
Ok. Et ben donc français sorti cet automne, si je ne dis pas de bêtises. Il était bien sûr présenté au FIF, évidemment, encore un autre festival. Et on suivait un jeune homme de 28 ans. On m'a interpellé sur le fait que j'utilise jeune homme pour quelqu'un de 28 ans.
Ah oui.
Mais non, c'est bon.
Je pense que oui, dans la vingtaine, c'est encore relativement
jeune,
je trouve.
Et donc c'est un jeune homme de 28 ans qui se retrouve confronté très soudainement à un diagnostic de maladie grave. Et donc on suit un petit peu comment il va gérer et digérer cette annonce sur le temps d'un week-end. Et vraiment très beau film et très belle interprétation pour Théodore Pellerin, donc très contente de le voir partir avec cette statuette. Nous ne sommes plus que toutes les deux. Nous avons été rejointes par notre technicien préféré, Mathias, coucou.
Salut tout le monde, bienvenue sur Scope, la mission la plus désorganisée de l'histoire de Radio Campus.
Mais non.
Et toi, on se demandait, Mathias, est-ce que tu suis un petit peu la saison des récompenses ou pas trop ?
Généralement, je les suis après, et parce que quelqu'un me rappelle que, il y a eu les Oscars, du coup, vous venez de me le rappeler. Les Césars, j'imagine que c'est passé aussi.
Donc, les Césars, c'était ce week-end qui vient de passer. Ce week-end qui arrive, on a les René, bien sûr.
Et le week-end d'après, c'est les Oscars qui
arrivent.
Oui, il faut dire les René et plus les Magritte.
Oui, c'est ça.
Si dans ma tête, j'appelle toujours ça inconsciemment les Magritte, parce que...
Ça va venir.
C'est comme X, anciennement Twitter, je ne sais pas expliquer ça.
Ou le tram 94, les Bruxellois vieux comprendront.
Un petit... Comment tu vas, Mathias, en forme de
ouais,
de
ouais, ça
festival
va pas mal. J'ai couru pour arriver le plus tôt possible. Merci à toute l'équipe qui a géré mon absence. Romy d'Anima, oui, parce que je fais pas partie des personnes qui ont passé le plus d'heures. Donc, pour moi, c'était plutôt chill. Mais j'ai quand même fait le film de clôture à 22h15 dimanche soir. Je me suis chauffé et je n'ai pas été déçu.
Ah, on en entendra plus bientôt, j'en suis sûre.
Bien sûr.
Alors, au niveau des sorties, petit point cette semaine. Moi, là, il y a quelques beaux films qui sortent, notamment The Bride, un nouveau film de, vais-je réussir à le dire, Maggie Gyllenhaal, j'espère ne pas être trop
que c'est
mal,
bon, c'est ça.
La sœur du fameux Jake, bien sûr, on aura la ref. Donc c'est son deuxième long métrage après The Lost Daughter. Vous l'aviez vu celui-là, sorti sur Netflix il y a 2-3 ans.
Complètement passé à côté, je dois admettre. Sorti Netflix.
Oui, mais il y a The Power of the Dog qui est une sortie Netflix. Et voilà.
Il n'y a pas de très bonne sortie Netflix.
Ah, pardon, The Power of the Dog, c'est lui qui l'a fait.
Non.
Je me disais aussi, c'était Jane Campion.
Bien sûr.
Juste que ça passe encore plus inaperçu quand c'est sur Netflix. Et à moins d'être vraiment accro, genre par exemple le Frankenstein de Del Toro, par exemple, pour rester dans le thème, c'est vrai que là, je l'attendais de pied ferme parce que. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçu en voyant le film. Pourquoi je passe au cinéma, en fait? C'est dommage.
Complètement. Mais ça, malheureusement, en tant que spectateur, ça ne nous appartient pas. Et donc, nouveau film de cette réalisatrice, c'est donc son deuxième long métrage. Et on s'intéresse ici à la fiancée de Frankenstein. C'est une nouvelle version, une nouvelle adaptation de cette histoire qui a déjà été traitée au cinéma maintes fois. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu fatigué là des nouvelles adaptations autour de l'univers de Frankenstein?
Surtout que la plus récente, elle est très récente justement.
C'est
vraiment en plus. C'est vrai que ça donne l'impression souvent quand les studios, il y a toujours ce côté bizarre où d'un coup, il y a 2-3 films qui sortent et ils ont à peu près tous le même concept ou la même ambiance. Et tu te dis, mais il y a eu espionnage industriel quelque part en fait.
Pourtant, c'est un film que de base j'attendais. Il est dans ma watchlist. Enfin, je l'avais ajouté il y a très longtemps.
Et puis un beau casting aussi.
Oui, c'est ça, avec Christian Bale et Jesse Buckley.
Et Jake Gyllenhaal et Penelope Cruz.
Voilà. Vraiment très beau casting. Donc le projet est digne d'intérêt. Mais là, tout de suite, moi je me sens un petit peu fatiguée de l'univers de Frankenstein. Donc on verra. Et en sortie cette semaine aussi, je reprends mes petites notes parce que j'oublie le nom de son cher réalisateur. On a Urchin. Vraiment, cette journée pour ma prononciation anglaise, c'est difficile.
Comment ça va?
Pour tous les Français.
Réalisé par Harry Dinkinson, c'est donc son premier long métrage. Harry Dinkinson, vous avez pu le voir comme acteur dans le moyennement apprécié Baby Girl ou le très apprécié pour ma part Triangle of Sadness ou Sans filtre en français, je pense. Est-ce que vous aviez vu Sans filtre?
Non, ça ne me dit rien.
Je n'ai pas vu Sans filtre, j'ai vu Triangle of Sadness.
Ah, voilà. Ouais.
cette traduction est horrible.
Oui. Déjà, c'est perturbant.
Non, il était assez incroyable ce film.
J'ai beaucoup aimé aussi.
C'est donc une pièce en trois actes, comme où les rôles, au début sur un bateau de croisière, entre les riches et les pauvres, deviennent inversés à partir du moment où le bateau fait naufrage. Donc non, c'était très très parlant pour ma part. J'ai trouvé que c'était une bonne satire de la société contemporaine.
Et hyper prenant, je trouve. Je l'ai vu il y a quelques mois maintenant, moi, novembre, je crois, et j'enchaînais beaucoup de films à ce moment-là. Et je sais pas, j'avais du mal à me faire un peu emporter. Et vraiment, ce film-là, il m'a pris avec lui, quoi. Pendant tout le long, il est un petit peu long en plus, je crois, c'est 2h30.
Ruben Östlund, quoi, c'est souvent
ouais,
ça.
Ouais, mais ça marchait super bien, un vrai plaisir. Et donc, ici, premier long métrage en tant que réalisateur pour cet acteur.
Qui n'a que 29 ans.
Voilà.
C'est très tôt pour réaliser un
film. Et il paraît que le film est bien. On en a entendu parler où ça, à Cannes, je ne sais plus.
Oui, un certain regard, il était sélectionné pour 2025.
Et donc très curieuse de découvrir ça, j'irai voir ça en salle pour le coup.
Un jeune sans-abri de Londres qui lutte pour sortir d'un cycle d'autodestruction tout en essayant de changer sa vie. On part pas sur de la bonne poilade, n'est-ce pas?
C'est à Londres, on débat, c'est déprimant je trouve, mais voilà.
Qu'est-ce que vous avez vu de sympa en salle ou dans les sorties dernièrement? Est-ce que vous avez eu le temps de vous y intéresser un peu ou est-ce que vous avez été débordé par, un, la préparation d'Anima et deux,
ça.
C'est ça, tout ce qui sort en ce moment, on est un peu dépassé. Hein.
Oui, surtout avec les séries aussi pour ma part. Je plaide coupable pour Bridgerton en tout cas.
Oui,
et
oui,
puis
oui.
La saison 2 de One Piece qui arrive bientôt aussi, le 10 mars. Là.
Mmh. Niveau série aussi, j'étais très débordé avec Twin Peaks qui est toujours de plus en plus intense.
Ah, oui.
Mais effectivement, j'ai pu voir le film Firework With Me et effectivement, ça m'a détruite. Mais effectivement, en salle, c'est vrai qu'avec Anima, j'ai pu rattraper des classiques comme ouais. Le Géant de Fer ou Le Roi et l'Oiseau que j'avais déjà vu il y a un bail, mais en des bien moins bonnes conditions et qui m'avait laissé un peu perplexe. Et là, étrangement, l'expérience en salle était absolument incroyable. Ouais. Et je me dis, on n'a pas beaucoup de films comme ça qui a aussi peu de dialogues et qui sont aussi féeriques. C'est vraiment un conte dans lequel on n'explique pas la logique de toutes les choses, quoi. Je veux dire, c'est l'histoire juste, oui, de la peinture d'une bergère et d'un cordonnier, c'est ça, non ?
D'un, je ne retrouve plus le mot.
Ramoneur.
Voilà, ramoneur, voilà. Un ramoneur.
Je suis trop
bizarre. De rien du tout. De rien du tout, qui juste prennent vie et qui s'aiment et qui veulent juste partir vivre leur vie. Et mais il n'y a pas d'explication sur pourquoi les peintures s'animent. Et c'est juste, on se fait juste emporter par la beauté des paysages. On sent les inspirations picturales très éparses et à quel point ce film est très inspiré, mais aussi ce film a beaucoup inspiré. Et c'est un truc que j'ai pas pu m'empêcher de me dire pendant tout le film. Rien que le robot, c'est juste un décalque que fera Brad Bird du Géant de Fer. C'est assez impressionnant.
Clairement, moi, le film, je l'ai découverte ici, ben, à Anima. C'était le film qui était proposé en séance surprise pour l'anniversaire d'Anima. Qui
45
était,
ans.
Voilà, c'est 45 ans. Et je n'avais jamais vu ce film, évidemment, dans ma watchlist depuis très longtemps, parce que donc, c'est un classique vraiment du long métrage d'animation européen en plus. C'est un projet qui remonte déjà, je crois que la première version du film date de...
47, 48.
C'est ce que j'ai retenu aussi, Philippe.
Fin des années 40, en tout voilà. cas, pour une petite première version de 40 minutes.
C'est ça. Et la version qu'on a pu découvrir, nous, ici, qui est la version qui a...
46.
Ah oui, carrément, c'est encore plus loin.
Et du coup, cette version finale, elle a été finalisée dans le courant des années 80.
C'est ça, 1980
et restaurée en 2001-2003. Enfin, la restauration elle a aussi pris plus de temps que prévu, mais oui, le réalisateur disait qu'il a mis quelques années à faire les 40 minutes de film et être content à trouver l'argent parce que c'était toujours très compliqué, l'animation en France. Et voir aussi des chefs-d'œuvre comme Arco qui sortent ou comme Amélie la métaphysique des tubes. On voit qu'on a quand même fait du chemin plus dans le bon sens et ça fait plaisir.
Et oui. Qui a quand même un vrai savoir-faire français de l'animation.
Totalement.
Aussi, déjà à l'époque et qui perdure encore aujourd'hui. Ça, je pense, c'est reconnu internationalement aujourd'hui.
Les futurs fondateurs du studio Ghibli ont tous dit que clairement ce film les a beaucoup inspirés, donc voilà.
Donc, film réalisé par Paul Grimaud. Et ça, j'ai appris ça lors de la projection ce dimanche. Tous les dialogues du film ont été écrits par Jacques Prévert, qui est donc un auteur très marquant du XXe siècle en France.
Un poète.
Voilà, auteur et poète. Et ça s'est vraiment senti, je trouve, les dialogues, notamment les monologues de l'oiseau. Hein, qui aime
bien sûr, qui est la star du film.
C'est ça, c'est ça. Et qui aime un petit peu s'entendre parler. Mais en fait, on aime l'entendre parler aussi, hein.
Oui, déjà, son doubleur Pierre Martin est effectivement excellent et ça se voit qu'il prend plaisir à le jouer et c'est très, très agréable de l'écouter parler. Et effectivement, oui, il a des longs dialogues qui font déjà aussi rire aussi par moments, mais qui permettent d'avancer l'histoire et qui c'est vraiment lui le moteur narratif en fait de tout le schmilblick, si je puis dire. Donc oui, les dialogues ont une belle sonorité, même une belle musicalité, ouais, je dirais. C'est presque chanté, c'est vraiment... Et l'animation, je trouve, en plus, lui rend magnifiquement honneur, en plus, quand il joue avec son chapeau ou avec ses grandes ailes colorées, ouais. C'est magnifique.
Un super oiseau, et moi j'avais vraiment cette... je savais très peu de choses du film, et j'avais vraiment cette image de ce gros piaf au final, et de ce roi dans cet escalier interminable. C'est vraiment la seule image que j'en avais, et en effet c'est parce que le film se déroule dans une ville tout en verticalité. D'ailleurs il y a des petites blagues là-dessus avec un ascenseur.
Mais clairement un petit propos aussi politique derrière, mais ça pousse l'idée jusqu'à l'absurde, ça profite du fait que ce soit une fable pour vraiment pousser tout à fond, et c'est très satisfaisant à regarder.
C'est ça, parce que le film, à l'origine, est adapté d'un conte de...
Hans Christian Andersen.
J'avais les deux derniers, mais pas le premier mot. Je suis en train de lire une réadaptation d'un de ses contes aussi, donc je n'en sors plus. Et donc, on est vraiment dans cet univers du mythe, de la fable, du conte, du poème, et c'est très sympa, franchement. Si
très onirique, en vrai.
Vu.
C'est ça s'appelle vraiment à l'imagination, je trouve.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ouais, j'espère. Je pense qu'un jour ça ferait le coup, ça vaudrait le coup qu'on fasse une émission entière sur sur Paul Grimaud, parce que on l'oublie souvent quand on cite des grands noms du cinéma francophone. Mais La Table Tournante, c'est un film qui a été réalisé en collaboration avec Jacques Demy, qui est sorti 8 ans plus tard. Et moi, j'ai encore la cassette chez ma mère pour vous dire. C'est une collection de plusieurs de ses courts métrages en fait, et on retrouve exactement. Et en plus, d'un court métrage à l'autre, parce qu'on suit lui, Paul Grimaud, en tant que prise de vue réelle, qui va un peu d'une pièce à l'autre et d'un court métrage à l'autre du coup. Et on le suit avec une table qui a 3 pieds et qui tourne sur elle-même et qui le suit aussi. Et puis de temps en temps, il y a l'oiseau du Roi et l'oiseau qui arrive aussi avec la même voix aussi. Petit clin d'œil. Et c'est très poétique là aussi. Voilà, j'en profite pour le glisser comme ça, La Table Tournante, si vous avez l'occasion de voir, c'est un petit chef-d'œuvre.
C'est chouette, vraiment, je trouve ça fou comment le cinéma d'animation, on le retrouve vraiment à la racine et vraiment tôt dans le cinéma, ce qui prouve bien encore qu'il n'y a pas tellement de distinction à faire entre cinéma et cinéma d'animation, que ce n'est pas un genre de cinéma ou quoi, c'est juste un médium qui fait partie de la large famille du cinéma.
Et comme l'avait aussi bien rappelé aussi Guillermo del Toro quand il avait sorti son Pinocchio, un autre conte réadapté, c'est aussi ça, c'est juste un médium et on peut faire ce qu'on veut avec. Par exemple, c'est très sous-exploité pour le cinéma d'horreur, alors que ça paraît très parfait, quoi. L'horreur, c'est le truc le plus étrange, le plus bizarre et débridé qu'on peut voir. Et donc l'animation, ça paraît très parfait, mais vu que c'est pas vu pour les enfants, il faudrait vraiment se contenter du peu qu'on a, c'est un peu triste. Donc oui, c'est toujours bien de rappeler et de voir encore une fois les succès d'animation qu'on a aujourd'hui.
Je suis toujours traumatisée de mon visionnage de Mad God que j'avais vu pour l'émission sur le stop motion.
Oui, c'est l'un des rares exemples de trucs un peu justement qui profitent de l'animation pour être complètement cauchemardesque. Et effectivement, c'est un excellent film, mais complètement cauchemardesque.
N'ayez pas mangé avant.
C'est ça, ou pendant, ou après, mais ou plus jamais. Mais voilà, c'est effectivement oui. Un autre film qui d'ailleurs aussi a mis 30 ans à se faire, Mad God aussi. Très ouais. Mais là c'est onirique, mais vraiment dans le pire sens du terme, et d'un côté je hais ce monde, et voilà, il avait des choses à dire, Phil Tippett.
Et je suis content du coup que des longs métrages comme Le Roi et l'Oiseau existent et se soient imposés comme vraiment des classiques, parce que c'est vrai, je pense aussi que beaucoup de gens un peu dénigrent entre guillemets, ou en tout cas ne considèrent pas l'animation à sa juste valeur dans le reste du monde du cinéma, parce que ça a été aussi très fort phagocyté par Disney, et que la plupart du temps quand on pense à l'animation, c'est à ça qu'on pense en premier, alors qu'en fait il y en a eu plein d'autres en parallèle.
Oui, nous le disons de DreamWorks, qui a quasiment été fait juste pour ennuyer Disney, genre Shrek, c'est vraiment juste un genre de nananère à Disney pendant 2 heures.
Je croyais que c'était par rapport à Pixar, pas à Disney, qui s'était créé, parce que c'était un peu les deux.
Les deux ont toujours été un peu la frontière entre Pixar et Disney un peu floue, et aujourd'hui encore plus, parce que même les sorties Pixar font très Disney basique maintenant, malheureusement.
Ça a été racheté de toute façon par Disney.
C'est ça, oui, mais même là, la différence interne dans la qualité, je trouve, je veux dire, je crois que je sais plus comment ça s'appelait, Lilo, non. C'était, personne n'a vu le dernier film Pixar avant Zootopie. Il y a eu Zootopie 2 qui est une suite, mais il y en avait un autre sur un enfant qui rencontre des extraterrestres, et c'est vrai que ça a complètement bidé, et que en fait, à part les suites comme Vice Versa 2 ou Zootopie 2, en fait, c'est un peu triste que même Pixar, on a un peu de pas dans
l'action.
Elio, voilà, c'est à cause de Nino, et donc du coup j'ai mélangé tous les prénoms.
Très beau prénom, Nino au passage.
Oui,
voilà, j'avais trouvé.
C'est très mimes, effectivement.
Et Nino Rota, Nino, y en a plusieurs dans le monde du cinéma aussi. Qui
oui,
comme ça.
Voilà, très beau et bon prénom. Pour revenir sur le Roi et l'Oiseau, nous c'est un film qui nous a marqué aussi quand on l'a vu ou revu ce dimanche, parce que c'est un film profondément politique. Et il ne s'en cache pas du tout. On a un roi extravagant, plutôt bête et désagréable.
Oui, c'était pas un bon roi.
Voilà, et le film nous le dit dans ce fameux monologue d'ouverture de l'oiseau. Ce roi est pas sympa, ce roi adore être seul.
Personne ne l'aime et il n'aime personne. Voilà, et il fait juste de la chasse tout le temps. Donc il y a vraiment ce côté mépris de la vie dans cette cité où effectivement les classes inférieures n'ont même pas de toit, visiblement. Ils ne savent même pas à quoi ressemble le soleil. Et clairement, on sent le côté politique très français de pas aimer les rois.
D'ailleurs, le roi, il s'appelle le roi Charles V, et 3 font 8 et 8 font 16.
Voilà,
littéralement.
Bien à côté, on se moque vraiment de ce côté royaume. En plus, il a un strabisme. C'est un strabisme, c'est ça qu'on appelle. Il louche pendant tout le film. On se moque de son image, du fait et de son ego démesuré, parce qu'il y a des têtes de lui partout. C'était effectivement assez drôle. Et le fait qu'effectivement, les deux héros qui vont mener un peu le chaos dans la ville, c'est un oiseau endeuillé, parce qu'on apprend très vite qu'il a perdu sa femme dans un accident de chasse, Et en même temps, justement, ce ramoneur de rien du tout qu'on rabaisse vraiment, et cette bergère qui veut absolument épouser alors qu'elle a l'air beaucoup plus jeune, c'est...
Et qu'elle ne veut pas l'épouser.
Oui, accessoirement. Accessoirement, qui ne veut pas absolument pas l'épouser. Justement, vous commencez à mener une vraie révolution dans toute la cité, en fait, et vont casser, et toute la fin du film appelle à un renouveau.
Voilà, et oui, ce roi, en fait, ces histoires d'ego aussi, avec toutes les figures de lui-même qu'il fait créer, ça vient en fait, ça lui revient en plein en figure, parce que lui-même va se faire
remplacer
par lui-même.
C'est ça, oui, ça va, en mode The Ring, son image va sortir du cadre, en fait, et va le remplacer, parce qu'au bout de quelques minutes de film, en fait, on n'entend plus parler de lui, on ne sait même pas ce qui lui arrive au vrai roi, et maintenant c'est vraiment juste l'image, son ego, qui va vraiment prendre le dessus et essayer de l'imposer à tout le monde, qui va tout détruire.
Et on voit cette police aussi, cette police du roi qui va répondre à toutes ces demandes, peu importe à quel point elles sont absurdes, qui lui sont complètement... Cette police, elle lui est soumise et elle ne cherche à servir que ses intérêts à lui. Et par contre, on a cette image de l'oiseau qui est en dehors de tout ça, finalement.
Oui, t'as un oiseau, il vole, il est libre.
Voilà.
L'image, c'est-à-dire que cette police politique toute noire qui rappelle vraiment toutes les polices secrètes, KGB, SS, CIA, ce que vous voulez insérer ici. Toute agence gouvernementale méchante qui ne parle jamais. Je pense que la seule réplique du policier qui lui sort de bras droit, c'est quand il se fait passer pour la bergère pendant le mariage pour dire oui à sa place, en fait.
Oui,
c'est le seul moment où il parle, c'est quand il s'est passé pour quelqu'un d'autre. Je trouvais que c'est un détail marrant, en vrai.
Alors, il y a un truc assez impressionnant au niveau du casting, j'avais aucun souvenir de ça. Mais donc, la voix du ramoneur est faite par Serge Reggiani, c'est quand même pas rien, c'est de la génération de nos grands-parents écoutait ça beaucoup, c'est un grand nom de la chanson française. Ensuite, on a l'oiseau qui est fait par Pierre Brasseur, donc
j'ai dit Pierre Martin tout à l'heure. Mais
ah, ouais, non, Brasseur, la grande dynastie de tous les brasseurs de comédiens en France aussi. On a Anouk Aimée qui fait la bergère. Alors peut-être que ce nom vous dit rien, mais si je vous dis La Dolce Vita, si je vous dis 8 et demi, quand même un grand, grand morceau du cinéma du siècle dernier. Et puis surtout, c'est Jean Martin qui fait... En fait, c'était Pierre Brasseur qui faisait l'oiseau dans la version de 53, et dans la version de 80, l'oiseau est fait par Jean Martin.
J'ai mélangé les deux,
Oui, voilà, mais, autant pour moi. Et donc lui, il est connu, entre autres, aussi pour Mon nom et personne, donc l'occasion de revenir dans une autre émission aussi sur des westerns.
Et donc Paul Grimaud et Jacques Prévert ont vraiment su s'entourer, en fait, d'un très beau casting et de très belles équipes techniques aussi, parce que techniquement, le film est super beau. Je pense, sur certains points, narrativement notamment, il a un peu vieilli au niveau du rythme, ce genre de choses, mais visuellement, je ne vais pas dire que ça n'a pas vieilli, parce que quand même...
On peut voir quelques petits horaires par-ci, par-là, parce qu'encore une fois, le film, la production était un chaos total pendant des années, donc... Pour le résultat final qu'on a, c'est vraiment impressionnant.
Et ça se regarde encore très très bien aujourd'hui, franchement.
Là, foncez le voir. Et quand je disais qu'on voyait les inspirations picturales de différents peintres, ça se ressentit dans la qualité aussi des choses. Vraiment, j'ai envie d'imprimer chaque image du film et les mettre chez moi. Hein. C'est vraiment très très beau.
D'ailleurs, Wikipédia termine le début de l'article en disant qu'en fait, c'est particulier parce qu'à la fois, c'est un film d'animation qui a été fait pour un public d'enfants et d'adolescents, mais aussi des réflexions philosophiques, donc aussi pour toucher le côté adulte. Et puis surtout, les très nombreux techniciens du monde de l'animation qui ont travaillé sur ce film, ils se sont formés en même temps que chaque version a progressé entre celle des années 50 et puis de 1980.
D'ailleurs, la première version des années 40-50, du coup, a été mise sous clé par les gens qui ont fait le film et qui ne veulent pas qu'on la voie.
Tout à fait.
Et je comprends, parce qu'en même temps, cette montée de réalisateur, non, mais en fait, c'est pas la bonne version, la vision de l'auteur, mais en même temps, pour l'analyse technique, j'aurais trouvé ça très intéressant de voir les 40 premières minutes de la bergère et le ramoneur, du coup, comme c'est comme ça que s'appelait le film dans sa première version, avant de rajouter les 40 minutes pour l'appeler le roi et l'oiseau. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de l'avoir mis sous clé. Encore aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir officiellement ou légalement, c'est un peu triste.
Pendant que Mathias peut-être nous prépare le petit passage de Golden de K-pop Demon Hunters de son côté, pour une petite pause musicale à son aise.
Alors juste avant, si je peux dire un dernier mot sur le film,
oui.
La musique a été composée par un Polonais qui s'appelle Wojciech Kilar, peut-être que ça ne vous dit rien, mais il a eu une grande récompense, le César de la meilleure musique en 2002 pour Le Pianiste, qui malgré le fait que ce soit un Polanski, reste quand même un chef-d'œuvre pour moi du cinéma.
Mais oui, très beau film, très belle musique aussi. Chris, tu le disais en off avant qu'on commence. Ça m'a marqué durant mon visionnage ce dimanche.
Notamment parce qu'elle sait se faire désirer. Il y a beaucoup de moments de silence où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de musique, juste des bruitages. Et effectivement, quand la musique est là, c'est vraiment magnifique et ça sublime chaque instant.
C'est ça, une belle composition et une très bonne interprétation.
Est-ce que tu peux rappeler le titre de la chanson et nous expliquer pourquoi tu l'as choisi comme ça?
Du coup, on va écouter Golden, le titre phare de K-pop Demon Hunters, parce que simplement, il est en boucle dans mes veines depuis 6 mois maintenant, depuis cet été. Et sachez que pendant que vous allez écouter ce morceau, je serai en train de le chanter par-dessus, comme depuis 6 mois, comme à Nouvel An, en karaoké avec tous mes amis. Et on écoute ça. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I live two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be your stage? These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe we're going up, up, up. It's our moment. You know together we're going. Gonna be.
J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Un vrai tueur, le meilleur de toute la ville.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là?
Ego, bonjour, vous êtes toujours sur Scope, l'émission cinéma de Radio Campus. Avec cette fois-ci le générique. Je suis toujours avec mes comparses. On a parlé tout juste à l'instant du Roi et de l'Oiseau. Maintenant, on voulait enchaîner sur un autre film qui était passé à l'anima, mais qui n'était pas non plus pas original, même un classique, hein, on peut le dire, qui s'est très clairement aussi inspiré du Roi et l'Oiseau. C'est tout simplement Le Géant de Fer, No Bradbird, sorti en 1999.
Meilleure année, bien sûr. Je le dirai à chaque fois.
Absolument pas biaisé.
Est-ce que vous l'aviez ? Enfin, moi, donc, pareil, je l'ai découvert ici à l'occasion d'Anima. Et en plus, c'était hyper chouette parce que c'était précédé d'une analyse queer réalisée par Yoke Dier, qui est une chercheuse en analyse de médias en Flandre et qu'on a pu interviewer. Vous découvrirez ça très bientôt.
C'est ça, tout l'aspect queer du film, on en reparlera très, très vite.
Voilà. Moi, je me demandais, est-ce que vous l'aviez déjà vu avant cette projection ici ?
Ben, je ne l'ai pas vu Anima, donc moi oui, je l'ai vu il y a longtemps d'abord, quand j'étais enfant, et puis ensuite de nouveau il y a 3-4 ans je pense.
Ok, et tu t'en souvenais bien ?
Oui, quand même, mais par contre je serais curieux de le revoir encore une fois aujourd'hui, parce que je crois que la dernière fois que je l'ai vu, je n'avais pas encore la lecture du coup queer de ce film.
Moi c'était une totale découverte à ce moment-là, donc c'est aussi fait que la présentation au début m'a un peu spoilé certains éléments, donc j'essaie d'écouter mais de façon un peu en dissociant juste assez pour pas trop en entendre. Et effectivement, c'était une grosse claque. Pas surprenant de la part de Brad Bird, parce que j'avais repassé son Indestructible, mais en boucle quand j'étais gosse. Mais c'est vrai que j'étais complètement passé à côté de ce géant de fer, qui en plus, qui fait moult fois référence à Superman, donc les super-héros, ça se voyait que ça le plaisait beaucoup. Et effectivement, c'est en plus le pic de l'animation 2D, en fait. C'est le moment où on commence justement à essayer à mettre des éléments 3D. Ici, c'est le géant de fer qui est en 3D. Ça fonctionne bien en plus dans le film, en plus, vu que c'est un... qui vient d'ailleurs, en plus, on le voit dès le début, c'est une comète qui arrive de l'espace.
Donc météorite.
Une météorite, ça s'écrase, une comète, ça passe. Et effectivement, la 3D fonctionne bien, mais aussi, effectivement, fin des années 90, on a les autres films de Disney comme Atlantide ou la planète au trésor aussi, que j'avais beaucoup repassé, qui en termes de 2D sont très beaux, mais aussi qui commençaient à s'essayer à la 3D. Et effectivement, l'animation dans ce film est magnifique.
Ouais, techniquement, c'était vraiment fou. Et pour revenir sur Brad Bird, moi, je connaissais pas trop sa filmo, enfin là, comme ça, de nom.
Les Indestructibles et Ratatouille, je viens de l'apprendre.
Voilà.
C'est ça, oui. Mais...
Le Géant de Fer, Ratatouille, Les Indestructibles et Mission Impossible.
Le 4, et ainsi
que. Protocole Fantôme, oui.
C'est ça. Et ainsi que Tomorrowland aussi, qui est l'un des derniers films qu'il a fait parce que c'était un peu planté au box-office. D'ailleurs, il y a une référence à Tomorrowland de Disney dans Le Géant de Fer, d'ailleurs, à la télé.
Ok.
Donc tout était déjà là.
une filmo, j'ai envie de dire éclectique, mais pas vraiment. Il y a quand même des choses qui ressortent.
Des grands thèmes qui reviennent.
Ratatouille.
Sur notamment l'effort collectif et le fait d'accepter des gens différents. On a complètement ça que la famille des Indestructibles aussi, qui est aussi bien là. Qui est sans doute le meilleur film, le meilleur film, les quatre fantastiques qu'on ait jamais eu en fait.
Clairement.
Et c'est vrai, son Indestructible 2 a quand même plus divisé. Je ne sais plus s'il est. Je sais qu'il y a un 3 qui est annoncé, mais je ne sais plus s'il doit bosser sur le 3. Mmh. C'est pas clair. Et j'ai l'impression que sa carrière, malgré que ce soit un peu. Quand même, c'est un mec extrêmement fort. C'est un petit peu à l'arrêt, c'est un peu dommage pour quelqu'un qui nous a fait de tant de chefs-d'œuvre.
Oui, et qui du coup est pas, enfin voilà, son nom ne parle pas au grand public, j'ai l'impression, et c'est assez surprenant. Et vous diriez que le Géant de Fer, chez nous ici en Europe, en Belgique francophone, c'est un film vraiment connu ou pas tant que ça ?
Ah, moi j'ai quand même l'impression que ça, c'est... en tout cas pour les personnes amatrices de pop culture, je pense que ça l'est. Oui, je compte même plus le nombre de chaînes YouTube de gens qui parlent même d'autres choses que de cinéma, qui ont quand même quelque part dans leur fond une figurine ou bien un bouquin ou un poster avec le Géant de Fer. Donc je pense qu'il y a quand même c'est quand même un film qui a marqué toute une génération et qui continue à vivre, oui, comme d'autres classiques.
Ah ben c'est juste moi qui suis passé à côté alors.
Là, c'est vrai que j'ai l'impression que ça parle un poil moins, parce que vraiment ce qui est très américain au film, c'est la petite Amérique années 50 qui a peur du communisme. Donc c'est vrai que c'est vraiment une ambiance très particulière et qui parle beaucoup plus aux Américains que nous. Et j'avoue qu'effectivement, comparé à des Ratatouilles ou des Indestructibles...
Qui sont plus universels,
C'est ça.
Puisqu'ils sont sortis plus récemment, que vous avez pu voir au cinéma.
En plus, c'est sous l'égide de Pixar aussi. Bon, il n'y a pas Tom Cruise qui escalade le Burj Khalifa aussi dedans. C'est pas dans Indestructibles, mais c'est dans Mission Impossible, hein, bien sûr. Mais effectivement, c'est vrai que c'est aussi l'un de ses premiers et l'un de ses plus anciens. Mais c'est vrai qu'il y a des raisons à ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est quand même moins universellement connu. Moins qu'il y a vraiment ce petit pic en plus de niveau de pop culture, de connaissances qu'il faut avoir pour vraiment bien voir ce film, en fait, voir c'est quoi en fait.
Mais en tout cas, moi, c'était une découverte et j'ai trouvé ça super, franchement. Quand le film a démarré, voilà, on était samedi soir en fin de festival, la fatigue était présente. Donc au début, les 5 premières minutes, je me dis, oula, est-ce que je vais assumer cette séance ? Et en fait, très vite, le film m'a emporté finalement, comme Triangle of Sadness. on en parlait. Et non, j'ai trouvé ça super, vraiment très contente d'avoir eu cette analyse cuir avant la projection aussi.
Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu ou il faudra qu'on débriefe ça dans Anima?
Une
pincée pour les trucs que personnellement j'avais vu, mais c'est vrai qu'Annelise Queer parlait de beaucoup de trucs, notamment par rapport au fait du robot et que dans le film le robot peut se réparer lui-même, et ce côté self-heal et position de son corps. Mais en fait, il y a juste des répliques qui font même pas genre juste particulièrement ouverture d'esprit, parce que c'est un peu ça dont parle le film, mais il y a vraiment des répliques. Seulement quand le robot va aller en ville et qu'il vient pote avec le gosse. Et ben le gosse lui dit non pas maintenant, ils sont pas encore prêts. Ils sont pas encore prêts pour toi, et c'est ça, c'est à 100% queer, en mode la personne qui a un peu peur de sortir du placard mais qui essaye un petit peu de trouver un sein de sociabilité quand même pour un peu s'assumer. Il y a vraiment ça et aussi tout l'aspect à Superman dont je vous parlais tout à l'heure, sur le fait qu'il disait tu peux choisir d'être ce que tu veux, et dit je choisis d'être Superman avec sa voix. C'est doublé par Vin Diesel aussi.
Oui.
Beaucoup de gens
ça me fait trop bizarre de voir ça. J'avais aucun souvenir de ça
en voyant ça au générique. J'étais là ah bon,
Vin Diesel est-il transmasque? Vous le saurez dans notre émission spéciale Anima, bien sûr, restez à l'écoute. Mais bien sûr, mais oui, il y a ce côté. Mais en fait, je décide d'être ce que je veux. Donc vraiment, il y a ce côté parce qu'il est réinitialisé au début du film. En fait, il se prend un coup dans la tête et donc du coup, son programme de destruction totale n'existe plus. Et donc du coup, il doit tout réapprendre comme un enfant. Et effectivement, à ce côté, il se recrée une identité qui n'est pas celle pour laquelle il a littéralement été créé. Donc il y a cet aspect inhéremment très queer. À ça, et aussi sur le fait que, de manière générale, le film parle du côté les Américains, ils ont peur de tout ce qui n'est pas comme eux, en fait.
Et ça, c'est vraiment incarné par le personnage de Mansley, qui est d'ailleurs la personne qui faisait l'analyse, dit oui, à un moment, son nom est même prononcé, on dit Manly. Ce personnage est terrifiant, en fait. Donc, c'est un agent du gouvernement qui se rend dans cette petite ville du Maine, si je ne dis pas de bêtises, pour enquêter sur les éléments étranges qui s'y passent depuis l'arrivée du géant de fer. Et oui, cet homme adulte, figure d'autorité, est terrifiant et pourchasse cet enfant.
Il a ce côté ridicule, mais il a tellement de pouvoir, du coup, dans ce mec ridicule qui a les cheveux orange d'ailleurs, non, dans le film, a autant de pouvoir. Donc en même temps, tu te moques de lui, mais en même temps, t'es en mode le mec a un vrai pouvoir d'autodestruction. Il est plus méchant que littéralement des militaires américains, quoi. Donc,
et il regarde cet enfant dormir.
Il le surveille, c'est vachement badant.
Il le suit presque partout pour lui tirer les vers du nez, presque aux toilettes.
C'est badant.
C'est terrifiant, enfin.
Et il a les cheveux orange. Oui. C'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, et le fait qu'en plus ils se prennent d'inspiration du géant de fer, parce que le robot à la fin qui en plus se fait carjacker en plus par l'oiseau et qui sert à détruire toute la ville du roi à la fin du géant de fer à la fin du roi l'oiseau. J'ai dû mélanger les deux, mes excuses. À la fin du roi l'oiseau, du coup c'est une machine de destruction qui se fait carjacker par l'oiseau pour devenir une machine de liberté pour libérer les gens. Là, pareil, c'est une machine de destruction qui se fait rebooter et reformater par un enfant qui, un peu comme au Terminator 2, en fait, tu expliques les bases de ce que c'est d'être un être humain. Ça parle de notre humanité plus que de robots. Et effectivement, les designs sont quasiment les mêmes, et les deux ont cette même volonté de tolérance et de liberté dans ces deux films. Donc c'est vachement beau, et on voit bien l'affiliation, quoi. Ça, c'est beau à voir.
Ça reprend un peu le narratif de King Kong aussi là-dessus, j'ai trouvé, où on a un peu un espèce de personnage un peu monstrueux qui est rejeté de tout le monde sauf d'une personne qui noue une relation très forte.
On pourrait parler de Frankenstein, mais bon, on va
aussi,
pas...
des monstres, oui, je pense. De la narrative des monstres. Et j'ai oublié ce que je voulais dire.
C'est marrant en tout cas de voir que apparemment le film, quand il est sorti, il a eu un gros échec commercial qui est apparemment attribué à un manque de promotion marketing, alors qu'aujourd'hui il est considéré comme un classique de l'histoire du film
d'animation.
Et finalement,
ça s'inscrit dans cette ligne de Atlantide et La Planète au Trésor,
oui,
et Frères des Ours aussi, qui ont été complètement, malgré qu'ils soient très bien narrativement et techniquement parlant, complètement délaissés d'un point de vue marketing. Et donc c'est des échecs programmés de la part de leur studio, en fait.
Alors que tout le monde les aime, ces films, et adorait les voir ou les revoir en salle, les effets absolument fous de La Planète au Trésor. Enfin, quand j'étais sur petit écran, j'avais un peu le syndrome de Stendhal, en mode waouh, c'est incroyable tous ces univers qu'ils font, on essaie de mélanger piraterie et science-fiction, et c'est très intéressant après coup de voir le premier film Disney des années 60-70 sur l'île au trésor, du coup, qui est réadapté ici en science-fiction. C'est super intéressant en plus de voir une telle filiation et de dire on va faire un remake mais qui a un intérêt. C'est trop bien. Il faudrait refaire ça aujourd'hui.
Petite mention aussi pour la musique du Géant de Fer composée par Michael Kamen, peut-être encore un nom qui ne vous dit rien, et pourtant si je vous dis Die Hard, toute la saga L'Arme Fatale, Brazil de Terry Gilliam, voilà, il avait, c'est triste parce qu'il est mort à 55 ans en 2003, c'est assez jeune, d'une crise cardiaque, alors qu'il était en plus en train de travailler sur un album de Kate Bush qui est sorti après à ce moment-là, Cœur sur elle et sur lui du coup, mais voilà, encore aussi deux films d'affilée dont on vient de parler aujourd'hui, Le Roi et l'Oiseau et Le Géant de Fer, qui aussi je pense doivent leur notoriété à l'excellente bande originale qui a été faite, parce que c'est toujours un peu indissociable, je pense, des grands films de l'histoire du cinéma.
Et qui marque complètement, et le Géant de Fer est un film très émouvant aussi. Enfin, moi, on m'avait dit, ah, prépare-toi, tu vas pleurer.
J'ai lâché deux, trois larmes.
Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment touchant, et ça, c'est toujours fortement complémenté par la musique quand même, ça va vraiment ensemble, quoi. Et non, mais le Géant de Fer, on rigole, on chouine un peu, on est un peu inquiet par ce personnage du gouvernement dont je vous parlais. Vraiment, à un moment, dans la salle, silence, et je lâche, mais le mec est terrifiant. Enfin, vraiment, ça m'a échappé.
Ouais, l'animation le sort très bien avec ses yeux en mode, il a une obsession et il la lâche pas, c'est un chien.
Mais et dans tous les sens du terme, parce que donc, dans cette histoire, on suit un petit garçon dont le nom m'échappe, ses initiations.
Egbert.
Hogarth,
un truc comme
Egbert.
Ça.
Hogarth.
Hogarth, à l'anglaise bien sûr.
Hogarth est élevé par sa maman qui vit seule et du coup
interprété par Jennifer Aniston, ça pareil, je l'apprends.
Ah oui.
Cette femme vit seule dans les années 50. Évidemment, il y a tous les chiens de la casse, petit rêve pour plus tard, qui lui tournent autour. Et oui, notamment cet agent du gouvernement aussi dont elle se passerait bien et qui vient vraiment chez eux, qui vient littéralement habiter chez eux pour les surveiller de plus près. Et c'est terrible.
Mais très clairement, en plus, et ça me rappelle que justement, il y a un autre personnage masculin dont le nom m'échappe complètement, avec qui justement les choses se passent un peu mieux parce qu'il est moins horrible, qui travaille à la casse
fer. C'est ça, qui est ferrailleur. Ouais.
C'est ça, qui est ferrailleur, mais qui est aussi artiste. Et je trouve ça super intéressant parce que justement, dans le genre de fer, il y avait tout ce côté dichotomie entre le vrai monde et l'artiste, justement, la création, la destruction, tout ça. Et donc le fait aussi que c'est un ferrailleur qui détruit des voitures, mais en même temps qui s'en sert
pour.
Qui en fait de l'art aussi. J'ai trouvé ça super beau aussi comme parallèle entre les deux films. En fait, cette réflexion sur l'art.
Et je crois qu'il dit à un moment, est-ce que je suis un ferrailleur qui fait de l'art ou est-ce que je suis un artiste qui est ferrailleur. Et
c'est ça, oui, c'est ça, c'est assez beau.
On en est tous là. Et bien voilà, le Géant de Fer et le Roi et l'Oiseau, c'est deux, un petit peu complètement même, classiques de l'animation du XXe siècle qu'on a pu découvrir ou redécouvrir ici à Anima. Et en fait, ça nous a vraiment interpellés parce que pour ceux qui l'ont revu au festival, on les a vus un peu en concomitance. Donc le Géant de Fer, c'était le samedi soir et puis on a enchaîné avec le Roi et l'Oiseau le dimanche matin, début d'après-midi, pardon.
Début d'après-midi, 14h.
L'espace et le temps, on n'avait plus aucun sens cette semaine.
Oui, c'est ça.
Et moi, ça m'a vraiment frappé que voilà, ces deux films soient éminemment politiques. C'est vraiment une grosse part de leur écriture. Et est-ce que vous pensez que les gros succès d'animation aujourd'hui le sont encore, ou est-ce que les studios sont plus frileux, ou est-ce que déjà à l'époque c'était des exceptions?
Vaste question. Ouais, moi j'aurais dit la dernière plutôt, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a tant de grands succès d'animation aujourd'hui qui sortent et qui soient politiques. Je pense qu'on pourrait éventuellement avoir, allez, si Zootopia, je pense qu'il y a quand même une certaine lecture politique là-dedans.
Mais après, à quel point c'est en surface, à quel point ça va vraiment là-dedans.
Exactement.
Effectivement, la méchante dans le premier Zootopie a basiquement le même plan que Ronald Reagan dans les années 80, mais c'est vrai que ça va pas non plus loin que ça, quoi.
Et puis voilà, Zootopie, on l'a déjà abordé ici plus d'une fois, son sous-texte, pas si sous-texte d'ailleurs, politique, mais il y a ce que le film dénonce et il y a ce que le film promeut aussi. Et est-ce que ça s'annule pas un petit peu au final pour avoir un résultat le plus lisse possible?
Voilà, c'est ça exactement. Et voilà. Je trouve que souvent les meilleures œuvres, ce sont les œuvres qui justement n'hésitent pas à avoir un propos et un truc, mais ça impliquait qu'il faudrait déjà trouver l'argent pour ça. Et bon, bah, ceux qui ont fait Le Roi et l'Oiseau savent qu'ils pensent que c'est compliqué.
C'est ça. Voilà. Oui, parce qu'on en parlait, ces deux films qui ont galéré financièrement, en tout cas pour le Géant de Fer au niveau, suite à sa sortie, n'a pas été très rentable, et Le Roi et l'Oiseau, c'est lors de sa production que ça a été compliqué. Donc est-ce que ces projets étaient viables à l'époque? On peut se poser la question aussi.
À quel point justement les studios voulaient juste pas de ça en fait, comme politique chez eux, ils sont en mode oui, fais ton truc, mais on va pas le soutenir, et effectivement littéralement un petit peu le laisser mourir dans son coin. Et c'est vrai que c'est beaucoup, en plus, avec les conglomérats de studios, avec l'inflation, le fait que tout coûte de plus en plus cher à produire, fait qu'en plus, ils veulent prendre encore moins de risques.
Et avec surtout pour de l'animation qui reste toujours si chère à produire.
C'est ça, en plus. Et dans ce contexte, en plus, beaucoup de gens de la tech et de la tech et même du cinéma en fait se soumettent de plus en plus à Trump, mm-hmm. avec Paramount en tête qui est en train d'essayer de racheter en plus de phagocyter Warner Bros. J'en peux plus de ce truc.
Ça me fait rire toute cette histoire parce qu'ils disent aussi sur Wikipédia qu'en 2016 le film est ressorti en salle, donc peut-être qu'au final les studios se sont dit ah tiens, en fait c'est devenu un truc culte, peut-être qu'on peut se refaire la cerise avec ça, donc voilà.
Ouais, effectivement, vraiment récupérer où ils peuvent.
Ouais, c'est parce que politiquement, la période est tellement trouble, mais justement, on a d'autant plus besoin d'œuvres comme Le Roi et l'Oiseau et Le Géant de Fer qui arrivent à bien raconter, mais aussi à dénoncer, à mettre les pieds dans le plat, en fait, et à pas avoir peur de se couper d'une partie des gens, parce qu'on pourra jamais plaire à tout le monde dans tous les cas.
Donc, si vous le pouvez, allez soutenir les petites créatrices de films d'animation qui parfois ont aussi des petits crowdfunding en ligne, quoi, ou des petits studios. N'hésitez pas, parce que il y a des petites perles qui attendent de sortir. Parfois, je vois souvent passer ça sur Instagram et qui demandent qu'un petit coup de pouce. Et on a aussi besoin de récits différents et pas trop formatés par Hollywood en ce moment.
Et sur ces belles paroles, on arrive déjà vers le bout de cette émission, mais pas tout de suite encore. Déjà, je pense que quand un petit peu cette histoire de rachat de Warner Bros. Ce sera fini, on pourra se faire une bonne émission sur ces histoires de studio, pourquoi les sorties Netflix, c'est nul, pourquoi les Oscars ne permettent plus les sorties uniquement Netflix, les rachats, les studios, qui appartient à qui maintenant,
les grands monopoles, quoi.
Voilà, je pense que ça méritera qu'on décortique un petit peu tout ça à l'occasion. Et puis, cette semaine, c'est pas fini pour le cinéma ici, dans les environs de l'ULB, parce que demain, évidemment, le jeudi, c'est Cinéphage.
Ouais.
Et cette semaine, vous allez pouvoir découvrir le film Chien de la casse, petite référence à tout à l'heure, long métrage de Jean-Baptiste Durand, qui est un petit peu, je sais pas si tout le monde serait d'accord avec ça, quand je dis que c'est le film qui a été un petit peu la révélation de Raphaël Quenard. En tout cas, ça l'a été pour moi.
Oui.
Est-ce que Yannick n'est pas sorti avant et ou
pour moi ça a été Yannick en tout cas.
Oui voilà, mais ça c'est un peu l'un ou l'autre ou les deux d'ailleurs. Et donc Chien de la casse, ça va nous parler de quoi ça va nous parler? Ça va nous parler de relations toxiques ou pas, de comment on s'en rend compte ou pas, de ruralité peut-être aussi, d'un bon chien, d'un très bon chien qui vaut la peine d'être vu à l'écran, un super dogo, allez voir ça. Et donc ce sera demain, le jeudi 5 mars à 18h30 au local H1 301. J'ai toujours l'impression que les noms de locaux à l'ULB c'est des noms de grippe, de souche de la grippe, c'est terrible.
Mais c'est le cas, c'est là qu'on l'attrape.
Venez nombreux, c'est gratuit, allez voir ça.
Complètement gratuit.
Voilà, et il y a des gens extrêmement sympas qui s'y connaissent bien. On me dit dans l'oreillette aussi qu'un court-métrage précédera.
Oui, avec Raphaël Quenard, justement, voilà. Sur la version plus courte de ce film, si je ne m'abuse. Parce que, évidemment, la personne qui a choisi ces films est sans doute la plus grande fan de Raphaël Quenard. Si vous voulez la rencontrer, vous pourrez lui poser des questions sur Raphaël Quenard, si vous avez des questions sur Raphaël Quenard.
Et si justement vous n'êtes pas fan, vous pouvez aller le dire aussi. Mais le film reste bien et il est bien dedans. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense de son livre claqué au sol, le film est cool. Moi, je le recommande. Donc allez voir ça demain, 18h30, c'est gratuit.
Merci beaucoup pour cette très belle présentation. On espère vous voir nombreux et nombreuses, bien sûr, pour cette nouvelle séance du Cinéphage. Et on vous remercie en fait de nous avoir écoutés dans cette émission. On espère encore une fois que cela vous poussera à vous intéresser au film dont on a parlé avec Le Roi et l'Oiseau et le Géant de Fer, des grands classiques, bien sûr. Je pense qu'on pourrait vous dire déjà à la semaine prochaine, sur les mêmes ondes, à la même heure.
À la semaine prochaine.
Salut tout le monde et
bye
merci.
Bye
bye.